RFI, 7h30, à Paris, 5h30, à Bamako et en temps universel. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour.
Un guitariste de génie et une voix hors du commun s'éteignent à Bamako.
Amadou Bagayoko est mort hier dans un hôpital de la capitale malienne. 70 ans, toute une vie ou presque passée sur scène. Et en compagnie de son épouse Mariam, sa voix et ses notes nous accompagnent tout au long de la matinale. Ce journal s'ouvre d'abord en République démocratique du Congo. Dans la province du Kwilu, donc juste à côté de Kinshasa, l'armée recherche des miliciens suspectés d'avoir tué des civils en début de semaine. Témoignage macabre aussi dans l'ouest du Burkina Faso. Des hommes armés auraient mené des raids vengeurs et sanglants contre 3 villages. Après une opération militaire, manifestation à Bangui hier en Centrafrique, à l'appel de l'opposition et contre notamment l'idée d'un troisième mandat pour le président Touadéra. On continue aussi de tendre nos micros aux candidats à l'élection présidentielle du Gabon. Elle se tient dans 7 jours tout juste, ce sera le 12 avril. Et les forces armées de République démocratique du Congo qui sont donc lancées dans une opération de ratissage dans la province du Kwilu. Nous sommes dans l'ouest du pays, province limitrophe de Kinshasa. Les soldats recherchent des hommes armés suspectés d'avoir massacré une dizaine de civils au début de la semaine. Cela fait plusieurs années que des miliciens Mobondo sont en lutte, plus ou moins larvés, contre les forces armées congolaises. Pauline Azidi, correspondance.
Depuis mardi dernier, l'armée congolaise ratisse la zone du côté du territoire de Bagata. Objectif retrouver les miliciens suspectés d'avoir tué une dizaine de civils ce 1er avril lors d'un raid mené dans la nuit sur une ferme près du village de Mayala. Les forces de l'ordre sont intervenues et des combats ont fait plusieurs morts côté assaillants et un décès dans les rangs des FARDC. Pour le porte-parole de l'armée dans la zone, les auteurs de cette attaque font partie d'un groupe de Mobondo qui refuse de déposer les armes alors qu'une partie des rebelles ont accepté d'entrer dans le processus de désarmement. Actuellement, une délégation de l'État congolais mène une mission de sensibilisation dans le Grand Bandundu. Elle essaie de convaincre les jeunes de ne pas rejoindre les milices, explique le capitaine Anthony. Du côté de la société civile, on s'inquiète de cette nouvelle montée de violence. Un responsable explique que si l'armée est bien visible dans certaines localités, d'autres sont laissés à leur propre sort. C'est pourquoi les atrocités continuent, estime-t-il, des attaques qui ont provoqué ces dernières semaines de nouveaux déplacements de population dans la zone. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Au moins 3 villages ont été pris pour cible avant-hier dans l'ouest du Burkina Faso, plus précisément dans la province du Sourou. Les hommes armés sont suspectés d'y avoir fait plusieurs dizaines, peut-être jusqu'à 200 morts. Les témoins et les rescapés racontent que les assaillants s'en sont pris spécifiquement aux VDP, volontaires pour la défense de la patrie, ces civils supplétifs des forces armées. Ces massacres qui semblent aussi être des représailles à une opération militaire menée par l'armée burkinabé quelques jours plus tôt. Récit Amélie Tullet.
Selon ces témoignages, les hommes armés ont pris d'assaut les villages de Di, Guédougou et Landfiera dans la province du Sourou jeudi, en fin d'après-midi. Un rescapé du village de Guédougou raconte « Les terroristes ont investi le village, il y a eu beaucoup de morts. Le bilan pourrait avoisiner les 200 morts », ajoute-t-il. Toujours selon un rescapé, des dizaines de personnes ont été enlevées, pour la plupart des jeunes qui avaient rejoint les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Une station de pompage d'eau et les infrastructures de plusieurs villages ont également été détruites. Ces attaques ont eu lieu quelques jours après une vaste opération nommée Tourbillon, menée par les forces armées burkinabées dans la région et qui avait permis de repousser ces hommes armés jusqu'à la frontière malienne. Une opération qui aurait brisé, selon les villageois, un pacte de non-agression entre groupes armés et civils. Toujours, selon les villageois, les habitants auraient demandé aux soldats qu'ils restent dans la zone, craignant des représailles de la part de ce groupe armé.
Amélie Tullet, des violences encore, cette fois-ci dans le centre du Nigeria. Elle date du milieu de la semaine. Au moins 40 personnes sont mortes dans des affrontements intercommunautaires. Nous avons enterré plus de 30 personnes, déclarait notamment un responsable du gouvernement local de cet état du plateau, en affirmant en fait qu'au total 48 dépouilles avaient été retrouvées après une série d'attaques de villages survenues mercredi dernier. RFI. Cela fait aujourd'hui juste un mois que le journaliste tchadien Olivier Monodji a été arrêté, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Par ailleurs, correspondant de RFI, il est mis en cause notamment pour intelligence avec une puissance étrangère, lui ainsi que 2 autres journalistes d'ailleurs. Ces trois professionnels de la presse sont aujourd'hui encore sous les verrous, en détention provisoire, et Reporters sans frontières s'indignent de cette privation de liberté qui se prolonge. Sadi Boumarong dirige le bureau Afrique subsaharienne de cette ONG.
Les charges sont très lourdes et cela sort carrément de l'ordinaire que des journalistes soient inculpés pour intelligence avec l'ennemi, attentat contre les institutions et complot. Et pour le cas d'Olivier Monodji, de son confrère Gekidata et de Mohamed Saleh, pour nous il est important de les remettre en liberté. Ils ne représentent absolument pas de menace, ce sont des journalistes. Ils ne vont pas quitter le pays. Donc, il est important que les autorités, à défaut d'abandonner toutes les charges, c'est ce que nous leur demandons d'abord. Nous leur demandons d'abord cela. À défaut de faire cela, il est important de libérer Olivier, Liam et Mohamed. L'audition, si les autorités le souhaitent, pourrait continuer. Mais nous sommes toujours convaincus en tant que RSF que c'est un dossier quand même qui est vide et que les journalistes n'auraient jamais dû être arrêtés le 5 mars dernier.
Sadi Boumarong, directeur pour l'Afrique subsaharienne de l'ONG Reporters sans frontières. Une manifestation à l'appel de l'opposition. Hier, dans les rues de Bangui, elle avait d'abord été interdite avant que les autorités centrafricaines ne fassent marche arrière. Le cortège a donc pu s'avancer dès les premières heures de la matinée sur l'avenue Barthélémy Boganda. L'un des mots d'ordre des organisateurs, c'était de dire non à un éventuel troisième mandat que briguerait le président Touadéra pour la présidentielle prévue à la fin de cette année. Les organisateurs revendiquent des milliers de participants. Reportage Rolf-Steph Domielleux.
Sous un soleil brûlant et une chaleur accablante, les manifestants se sont réunis devant le monument de Barthélémy Boganda pour véhiculer leur message de manière pacifique. Vêtus pour la plupart de rouge, ils sont issus de différents partis politiques, de la société civile et des groupes de confession religieuse. Ben Wilson Gassan, acteur de la société civile.
La première revendication, c'est pour l'amélioration des conditions de vie sociale. Le manque d'eau, le manque d'électricité, les hôpitaux qui ne fonctionnent pas bien. La deuxième revendication qui paraît importante pour nous, c'est de dire non au projet du troisième mandat de M. Faustin Archange Touadéra.
Cette marche est un pari gagné, selon Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition.
Depuis 2-3 mois, on met les Centrafricains dans la rue, un peu contraints et forcés, en leur promettant des petits billets de 500 francs, pour leur faire réclamer un troisième mandat pour Touadéra. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné une opportunité aux Centrafricains, sans les payer, de sortir d'eux-mêmes et de dire ce qu'ils pensent de la manière dont le gouvernement gère ce pays.
À quelques mois des élections présidentielle et législative prévue en décembre prochain, le BRDC s'oppose au projet d'un éventuel troisième mandat.
Quand quelqu'un a fait 9 ans au pouvoir, il lui reste un an, il est fait et puis il faut que l'alternance ait lieu. Logiquement, lui-même, il doit constater l'échec cuisant de ces 9 ans de mandat, il faudrait qu'il parte.
Cette manifestation intervient 6 jours après le meeting des organisations proches du pouvoir qui avait réclamé un troisième mandat du chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Rolf-Steph Domielleux, Bangui, RFI.
Et puis une autre manifestation hier, cette fois à Port-Louis, capitale mauricienne, à l'appel d'une vingtaine d'organisations civiles, et notamment celle des habitants de l'archipel des Chagos, ce petit chapelet de terre sur lequel l'île Maurice pourrait recouvrer sa souveraineté. Après des décennies de conflits diplomatiques avec l'ancienne puissance coloniale britannique, à l'exception toutefois de la base de Diego Garcia, poste militaire avancé des États-Unis, ultra stratégique, les Américains s'en servent comme base arrière pour leur opération en mer Rouge, notamment contre les Houthis du Yémen soutenus par l'Iran. Téhéran menaçant désormais de bombarder la zone, les manifestants exigent la démilitarisation totale de cette zone de l'océan Indien et le retour de la souveraineté mauricienne entière sur l'intégralité de cet archipel des Chagos. Le Gabon est ce matin à tout juste une semaine de son élection présidentielle. Ce sera le 12 avril prochain et RFI continue d'interroger les 8 postulants à ce scrutin qui bouclera la transition post-Ali Bongo. On interroge ce matin Stéphane Iloko-Boussengui, médecin âgé de 63 ans, ancien porte-parole du PDG, le parti justement au pouvoir avant le coup d'État. Il a lancé ensuite une plateforme commune avec Alain-Claude Bilibinzé, mais finalement, il s'est porté candidat en son nom propre. De quoi nourrir à son endroit les accusations de rouler en sous-main pour le pouvoir. Stéphane Iloko-Boussengui affirme, lui, vouloir soigner un Gabon malade, notamment de la corruption.
Le Gabon est dans une situation chaotique, l'école est à genoux, il y a des coupures partout, j'habite une zone complètement sinistrée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, le taux de corruption est très élevé, on peut accorder des marchés de gré à gré, des milliards et des milliards, non, le Gabon est malade. pour le soigner.
Pourtant, vous avez été pendant de très longues années au Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous n'êtes pas aussi co-responsable de la situation ?
Je veux dire, sur le plan collectif, oui. Je suis resté dans un parti qui pensait que la discipline était l'apanage du bon militant. Mais en réalité, c'était du trompe-l'œil, c'était de la poudre aux yeux. Bien sûr, j'étais dans la machine, en tout à la fin, j'étais conseiller du président, porte-parole. Mais vous savez, même en France, quel est le rôle de conseiller? Il ne gère pas les caisses. Donc, ceux qui sont comptables de cette banqueroute, ce sont les gens qui ont siégé au gouvernement et on les connaît tous. Et tous ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, si on commence avec un seul, c'est tout le monde qui l'a. Et même, il y a des gens qu'on ne soupçonne pas faire partie de cette bande de mercenaires.
Des propos recueillis par François Mazet, vous lisez à loisir sur RFI.fr un long article complet sur les programmes et les motivations des candidats à cette présidentielle. Le Gabon dont on parle aussi ce matin avec l'invité de la rédaction, Jean-Elvis Ebangondo, lui n'est pas candidat. Mais il s'adresse à tous les postulants pour leur demander de s'engager contre les crimes rituels commis par dizaines encore chaque année sur des enfants. Entretien que vous écoutez aussi sur RFI Pure Radio. Maudits, des enfants à qui on met une allumette autour, une amulette autour du cou parce qu'ils sont nés aveugles. C'était ça que chantaient Amadou et Mariam dans Terela Sébé que vous entendez sous ma voix et qu'ils ne chanteront plus. Amadou Bagayoko est mort hier après-midi, 70 ans. Il est mort à Bamako, il a passé l'intégralité de sa vie en musique. L'Occident avait certes découvert ce couple de la ville et de la scène au début des années 2000 avec des tubes qui avaient enflammé les charts. Mais ça faisait déjà plus de 30 ans qu'Amadou et Mariam étaient au sommet. Écoutez le souvenir qu'en garde Soro Solo, journaliste, producteur, très fin connaisseur des musiques africaines.
En France, leur succès a explosé avec l'album produit par Manu Chao et puis ensuite par surtout Un Dimanche à Bamako. Mais pour nous, Africains, c'est pas ça le vrai succès d'Amadou et Mariam. La musique d'Amadou et Mariam, c'était une musique de déconstruction des superstitions africaines, d'ouverture des consciences par rapport aux problématiques sociales, aux croyances superstitieuses. C'est d'abord ça que nous retenons. Et c'est ça, ça se trouve dans des chansons comme Terena Sebe. Si on traduit, ça veut dire l'amulette de la journée. Ce sont cette amulette qu'on accroche au cou d'une fille ou d'un garçon qui est né aveugle, et donc on estime qu'il est, c'est un enfant maudit, et on le stigmatise en lui accrochant une allumette, et c'est ce qu'on retrouve dans Terena Sebe. Et c'est pour moi, ça fait partie des chansons emblématiques qui ont fait la carrière d'Amadou et Mariam, c'est pas Un Dimanche à Bamako.
C'est vous qui avez la lourde tâche de reprendre sur Terela Sébé.